Bonjour à tous. Un plaisir pour moi encore d'ouvrir ensemble la parole de Dieu pour nous encourager, nous exhorter et à progresser dans notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, nous poursuivons la série de Suivre Jésus en disciple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je sais que plusieurs me l'ont partagé une fois que je l'avais prononcé devant vous, de ma préoccupation de changer de canapé. Ça traînait. Mais changer de canapé lié à, bien sûr, aussi à ma vie passée, en tant qu'architecte, où voilà, on a certains goûts, certaines attentes, certaines préoccupations de comment il doit être. Et je dois vous dire, peut-être vous confesser, que c'est pas facile de choisir et de se dire, mais comment le Seigneur m'appelle à, dans un aspect tellement pratique, à l'honorer aussi dans un achat. Il y a quantité comme ça de sujets qui peuvent nous préoccuper au quotidien. Maintenant qu'on est disciple du Seigneur, voilà, il y a une voiture qui commence à lâcher. On se dit, est-ce que c'est le moment, pas le moment? Cette semaine avec Ruth, on s'est posé la question de nos vacances cet été. On s'est dit, est-ce qu'il est bon, ben voilà, de se payer tel type de vacances alors que l'on sait qu'il y a des besoins dans un pays, dans l'église, etc. On peut avoir d'autres préoccupations liées à son travail. Je suis préoccupé par certaines relations, certaines personnes qui sont en retrait, et je me dis, Seigneur, comment tu m'appelles à être en tant que disciple, à les encourager à ne se pas se priver de la communion fraternelle. On peut être préoccupé peut-être par nos vies qui courent à droite ou gauche, et on se dit, Seigneur, mais c'est où mes priorités? Quels sont les aspects importants? Quelles sont les choses que je dois laisser de côté? En fait, ce matin, vous voyez que en tant que disciple, dans tous ces aspects-là, et je pense que si chacun faisait le tour de chacune de nos vies, on aurait une préoccupation qui est sur nos cœurs. On peut peut-être être préoccupé par sa retraite. Je sais que moi, depuis que je suis dans le ministère, notre union d'église m'a encouragé à y réfléchir, et j'ai encore pas réfléchi correctement. Alors, je sais que c'est un sujet d'actualité pour notre société, mais voilà, il y a quantité de sujets qui peuvent nous préoccuper, qui peuvent être sur nos cœurs dans le quotidien, et que nous sommes appelés en tant que disciples peut-être à considérer, mais véritablement différent. Et c'est un peu le thème ce matin de ce que j'aimerais nous encourager, c'est de vivre intentionnellement. Vivre intentionnellement. Et je vous donne un peu le titre de ce que je vous propose ce matin, c'est un disciple, il est discipliné. C'est logique, un disciple du Seigneur, il est discipliné. Et pour ce faire, j'aimerais simplement nous aider avec un texte qu'on a déjà étudié il y a peut-être une ou deux années en arrière, mais que je vous propose de voir ce matin. Donc on est dans la lettre de Thessaloniciens, la première, au chapitre 4. Je vous invite à avoir le texte sous les yeux. Je l'ai pas affiché. Mais voilà, je vous invite à regarder et à méditer ensemble ce matin dans cette question-là de vivre intentionnellement pour le Seigneur. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à ces chrétiens de cette ville de Thessalonique. Donc 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères et sœurs dans la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, à vous efforcer de vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur et vous ne serez dépendant de personne. Voilà l'apôtre Paul qui nous encourage à cette vie différente, à cette vie intentionnelle. Alors je vous propose de réfléchir à cette question de vivre en disciple discipliné, on pourrait dire, à l'aide de ce texte. Et un premier élément que j'aimerais souligner, c'est que nous sommes appelés à vivre pour plaire à Dieu. Et je vous rappelle simplement au topo 4 de cette série sur suivre Jésus, on avait vu que le disciple de Jésus avait une nouvelle manière de vivre. On avait une nouvelle identité, de nouvelles valeurs. On avait notamment précisé qu'il y avait ce Saint-Esprit en nous qui nous appelait justement à vivre cela. Tout dernièrement, on avait vu aussi que cette vie avec le Seigneur était appelée aussi à être en guerre contre ce qui déshonore Dieu, contre le péché, à mettre de côté ce qui ne lui appartient pas. Le disciple a vraiment une nouvelle orientation de vie. Jésus est Seigneur. Et nous sommes appelés à le mettre, c'est ce qu'on avait vu, à le mettre au centre de nos vies. On a pu le chanter par l'un ou l'autre chant déjà ce matin, de cette disposition volontaire à vouloir le chanter, à se dire « Seigneur, tu sois le centre de nos vies, sois le centre de l'expérience de ma vie. » Et c'est ce que nous dit Paul ici à l'église de Thessalonique, vous l'avez peut-être vu au premier verset, « Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Mais il y a une dimension dynamique sur la fin du verset 1, et nous vous le demandons et nous vous y encourageons, progressez encore. Nous sommes appelés à plaire à Dieu, mais progressez encore. La traduction Semeur dit « Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Marchez de progrès en progrès. » Et le sens du mot qui est utilisé là, qui est traduit, c'est l'idée de déborder, d'être accompli, d'être parfait, d'avancer. Dans notre vie avec le Seigneur, il y a une dimension dynamique. On n'est pas statique. Il y a une dimension de progresser dans notre marche avec le Seigneur. Et on pourrait se dire, mais est-ce que Paul est en train de dire cela à l'église parce que c'est une église un peu molle, mollassonne, qui a oublié ses priorités? Et bien évidemment que non, parce que si vous regardez cette lettre dans son ensemble, c'est une église profondément encourageante, où la piété de cette église donnait envie, où l'amour fraternel entre les membres donnait envie. Et Paul dit, progressez encore, ne vous arrêtez pas, grandissez encore. Cette église est encourageante, mais il n'y a pas de position figée. Grandissez dans la grâce, grandissez dans votre amour pour Dieu. Paul souhaite qu'ils excellent. Et c'est un principe pour nous en tant que disciples ce matin. Quand je disais vivre intentionnellement, c'est une vie qui honore, qui a ce désir d'honorer toujours davantage dans le quotidien le Seigneur. De plus en plus. De plus en plus. Ici, on parle un peu de la question de la piété. La question de notre attachement à Dieu au quotidien. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Paul, il est cohérent dans ce passage, parce que juste avant ce chapitre 4, Paul, il prie pour cette église, et regardez simplement ce qu'il prie, par exemple, verset 12, juste un peu, quelques lignes au-dessus, « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. » Que Dieu fasse grandir l'amour que vous avez déjà, mais que le Seigneur le fasse prospérer, que cela grandisse. Verset 13, après, il dit qu'il affermisse, que le Seigneur affermisse, s'il affermir, ça veut dire que ça doit encore plus prendre racine, votre cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu, notre Père. Donc, vivre pour plaire à Dieu de plus en plus, mes amis. Nous sommes appelés à considérer si nous sommes disciples du Seigneur, à grandir dans cette dimension. Il y a une dimension dynamique. Et après notre passage, si on prend à partir du verset 13, Paul va parler du retour de Jésus. Paul va rappeler, voilà l'objectif, voilà ce qui est devant vous, l'horizon. Alors mes amis, c'est toute la question de se dire, entre le moment où j'ai rencontré le Seigneur et cet horizon, ce retour de Jésus-Christ, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Je sais pas combien de jours le Seigneur nous donne, mais est-ce que sur notre lit de mort, hein, on aura peut-être l'occasion, quand on sait qu'on est arrivé dans notre dernière ligne droite, est-ce qu'on aura l'occasion de faire le bilan de notre vie et de se dire, j'ai aucun regret, j'ai décidé de vivre intentionnellement pour Dieu, de progrès en progrès. Si j'oublie que j'ai été sauvé dans cette perspective éternelle, je vais vivre pour ses ambitions terrestres. Je chercherai dans ma vie les plaisirs dans ce monde. Mes amis, seul Dieu peut nous combler. Seule la vie éternelle à laquelle Dieu nous a rachetés mérite de vivre. Et c'est ce que mon cœur doit chérir. C'est ce que mon cœur doit développer. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment déjà prendre en première question. Est-ce que c'est vraiment d'aimer de plus en plus notre Dieu est une priorité dans nos vies en tant que disciples ? De trouver en Dieu notre plaisir, qu'il soit de plus en plus précieux, que notre amour fraternel, par exemple, comme il l'est souligné ici, grandisse. Avant ma rencontre avec le Seigneur, je vivais d'une certaine manière. J'avais une vision du monde, j'avais des habitudes, j'avais mon propre code moral, j'avais des attachements. Et à notre conversion, Dieu nous a donné une nouvelle identité. Il nous a montré ses valeurs, il nous a montré ses priorités. Il nous a montré une nouvelle perspective. Il nous a révélé le cadeau de la grâce qui doit animer notre vie maintenant. Ça chamboule tout. Paul dira à l'église de Philippe cette phrase, hein, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » C'est un peu la même chose, c'est la même exhortation. Vous avez été sauvés par grâce. Marchez dans votre cœur, dans vos attitudes, quelque chose qui reflète votre vie de disciple, dans cette identité du Seigneur Jésus-Christ. Qui aimons-nous, mes amis ? Qui aimons-nous ? Et qui on aime, ça se voit dans le quotidien. Je parlais tout à l'heure de l'exemple, des fois, des objets tout pratiques de nos vies, mais si mon amour est dans ces objets pratiques, ben je vais le voir dans l'ordre de mes priorités. Mes amis, vivre pour Jésus, c'est de développer intentionnellement une nouvelle manière de vivre qui porte de fruits. Nous vous encourageons dans le Seigneur Jésus-Christ à progresser encore. Et on se rappelle hein, comment Paul, il encourage dans... Il parle de la course. La vie avec le Seigneur, maintenant, c'est une course. Une course où il y a un objectif. Je ne sais pas si je l'ai affiché, mais moi donc je cours... Non, je l'ai pas, mais... moi donc je cours, il dit dans Corinthiens, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pas pour battre l'air, au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul, il se dit, je veux marcher de progrès en progrès, je veux vivre de plus en plus pour le Seigneur, je vois ce qu'il y a devant moi. Mais cette vie, elle n'est pas le fruit, c'est pour ça que je vous encourage à nous rappeler à notre identité, elle n'est pas le fruit de nos efforts, elle est le fruit parce que nous avons nos deux pieds, notre tête dans la grâce. Jésus dira, celui qui demeure en moi, demeurez en moi, portera du fruit. Notre vie, elle est appelée à verdir, notre vie, elle est appelée à porter un fruit, elle est apportée à donner envie. Je vous le partageais, hein, un de mes versets peut-être qui m'interpelle en ce début d'année, enfin en début d'année depuis quelques semaines, c'est 2 Pierre. On peut, si vous avez vos Bibles, je vous encourage à prendre juste 2 Pierre, la deuxième lettre de Pierre. Le verset 3 qui nous dit justement « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Il nous a fait connaître, il nous a tout donné. Dans sa grâce. Nous sommes appelés à vivre pour lui. Mais je poursuis verset 4, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça change tout dans nos priorités. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, on a le même vocabulaire, hein, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités-là, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Vous voyez le lien? C'est Pierre là qui parle. Il dit la même chose. Vous avez été racheté, vous avez reconnu la grâce. Maintenant, vous êtes appelé à avoir une vie qui découle de cette grâce et qui va porter du fruit, qui va verdir. Un disciple est discipliné et porte du fruit. On est souvent prêt à faire des sacrifices dans plein et plein de domaines de nos vies. Mais sommes-nous prêts à être transformés par le Seigneur? À nous être interpellés peut-être de ce qui est des habitudes et de se dire, mais est-ce que cette habitude, elle plaît au Seigneur? Ce que je trouve, si on revient dans la lettre aux Thessaloniciens, et c'est mon deuxième point, c'est la question de où il nous appelle à vivre. Dans ce que tu aimes se voit, dans ce que tu choisis de faire au quotidien. Dans quel domaine nous sommes appelés à grandir? Nous sommes appelés à réfléchir. Je sais que nos préoccupations, je l'évoquais en début, nos saisons de vie ne sont pas identiques entre chacun de nous. Ils ne sont pas comparables les uns envers les autres. Les réflexions qui animent un jeune ne sont pas les mêmes de celles qui peuvent animer un aîné. Et dans l'extrait de cette lettre, on voit que Paul, il a listé un certain nombre d'éléments, un certain nombre de sujets, un certain nombre de domaines où les chrétiens de Thessalonique doivent veiller, doivent travailler, doivent se questionner, doivent progresser. Bien sûr, il y a un premier qui chapeaute un peu le tout, c'est l'idée de plaire à Dieu, progresser, plaire à Dieu, conduisez. Et ça chapeaute un peu le tout. Et puis après, il y a un certain nombre de domaines, on le voit, qui concernent la personne. Il y a la question de la sexualité, il y a la question des mœurs, des passions, il y a la question de son corps, versets 3 et 4, il y a la question de s'occuper de ses propres affaires, donc on voit c'est lié à sa propre personne, verset 11. On voit aussi qu'il y a la question des relations à l'autre. Paul, il exhorte à ne pas faire comme les autres, qui ne connaissent pas Dieu. Paul exhorte dans ce passage à ne pas faire du tort à l'autre. Il exhorte à ne pas porter atteinte à l'autre, à ses droits. Et bien sûr, il y a ce refrain qui revient régulièrement dans les lettres de Paul à s'aimer mutuellement. Donc là, on est vraiment dans un domaine aussi des relations aux autres. Il y a la dimension du travail, hein. Paul évoque à la fin de travailler de ses mains, verset 11. Ce sera un sujet bien spécifique à part dans le cadre de cette série, un peu déjà de pub dans quelques semaines. Voilà, on prendra le temps de questionner ce sujet du travail en tant que disciple. Il y a la question de notre attitude aussi avec les gens de l'extérieur. Il y a bien sûr avec la famille, les chrétiens. Il y a aussi la question de notre témoignage, comment les gens autour de nous nous voient. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de sujets très très précis. De Paul, et je trouve qu'il fait déjà un panorama assez complet de ce qui concerne en réalité nos vies. Et on pourrait dire qu'en fait, il n'y a pas un domaine où Dieu, nous ne serions pas appelés à le soumettre à Dieu. Il n'y a pas un domaine. Et je trouve que c'est pour ça que je dis vivre intentionnellement, c'est que il est important de nous questionner dans nos vies, de la manière dont on les gère, dans tous ces aspects très pratiques. À l'église d'Éphèse, il va dire « Veillez avec soin à votre manière de vivre, avec les autres, avec vous-même, avec ce que Dieu vous donne. » Mes amis, nous sommes encouragés à baliser notre vie, à agir avec Dieu, à examiner nos voies. Et la question, elle est là pour nous ce matin, est-ce que nous connaissons nos domaines de responsabilité ? Je m'explique. Sais-tu ce que Dieu t'attend de toi dans les différentes sphères de ta vie? Et je pense qu'en tant que disciples, nous sommes appelés aussi parfois à nous poser et à nous dire, ben, le Seigneur, aujourd'hui, je suis responsable, où je dois questionner comment Dieu m'appelle à vivre. Sinon, tu vas te disperser. On est dans un monde où on a plein de distractions et on peut se perdre. Je pourrais me perdre dans mes réflexions autour de mon canapé, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, ou dans des réflexions pour changer de voiture. Mais est-ce que c'est ce que Dieu m'appelle à vivre? Si je n'ai pas pris le temps de réfléchir à ce qui était important aux yeux de Dieu, beaucoup de distractions vont capter notre attention. Et j'aimerais juste lister cette sphère, en fait, d'ailleurs, qui apparaissent dans cette lettre, dans les domaines qui nous concernent et que nous sommes appelés, peut-être chacun, à discerner. Le premier, bien sûr, et je reviens, c'est Dieu. On est disciple du Seigneur, c'est ma priorité. C'est lui qui fixe mes priorités. Tu lui as voulu lui donner la première place en tant que disciple. Aimer Dieu par-dessus tout. On l'a exprimé dans ses chants aussi. Aimer Dieu avant tout. C'est d'ailleurs le premier commandement que Dieu nous a laissé. Chaque instant de ta vie est pour lui. Alors si tu lui accordes cette place qui lui revient, tout le reste qui découle, toutes les autres sphères vont découler de cet attachement, de cette orientation, de cette saveur tout particulière où tu veux dire Dieu a la première place. Dieu, il est le plus important. Et bien évidemment, ça va agir sur ta deuxième sphère, c'est ta propre vie. Comment tu la gères? Et là, dans ta vie, tu peux mettre beaucoup de choses. Tu peux mettre la question de ton corps, tu peux mettre la question de tes dons, la question de tes forces, de tes besoins. Il y a des domaines où on a besoin de faire des efforts, il y a des domaines où on a besoin de sommeil, on a besoin de repos. Et la parole de Dieu m'appelle à réfléchir à la manière dont je gère ma vie. Comment je gère ma santé, mon énergie, mon temps. Afin d'aimer Dieu, afin d'aimer les autres. Comment je gère ma vie? Je vous le partageais, hein, il n'y a pas si longtemps, mon désir de travailler, où le Seigneur m'a révélé que j'avais une mauvaise gestion de mon sommeil qui pouvait entraîner bien d'autres lacunes dans d'autres domaines. Une deuxième sphère qui découle, c'est bien sûr ta famille, c'est tes plus proches prochains. Donc là, tu peux mettre tes enfants, tu peux mettre tes parents, tu peux mettre ton conjoint. Ce sont les personnes avec qui nous avons des responsabilités. Dieu m'appelle à réfléchir comment je dois prendre soin de ces relations-là. Et bien sûr, une sphère qui en appelle une autre, c'est ton église. Dieu nous a donné une famille spirituelle dans laquelle nous avons un lien privilégié. Et j'espère que nous considérons cette famille que nous sommes comme quelque chose d'important, que nous sommes appelés à cultiver et à se dire « Seigneur, comment tu m'appelles à vivre cette communion fraternelle ?» Et on le voit dans cette lettre de Thessaloniciens. Paul, il est préoccupé de cela, de cet amour fraternel. Jésus place même avant ce lien-là, avant les liens biologiques. C'est tellement important, tellement précieux. Ces relations sont vitales. Comment nous sommes appelés à les cultiver, à les entretenir? Bien sûr, il y a toute la sphère après de ton engagement, de ton activité, de ce que tu fais. Là, tu peux mettre tes études, tu peux mettre ta retraite en fonction de... Mais le Seigneur nous a créés aussi, bien sûr, pour un certain nombre d'activités. Nous sommes appelés à les considérer aujourd'hui, mais comment je suis appelé à les vivre pour Dieu? Dieu est ton patron, Dieu est celui qui a toute autorité. Qu'on soit derrière un bureau, dans une salle de classe, le Seigneur appelle à ce que nous agissions avec, pour sa gloire, que nous vivions pour sa gloire à être une bénédiction. Après, on pourrait étaler, hein, il y a le cercle de l'entourage. L'environnement social, Dieu nous a placés dans un quartier, dans une ville, avec des amis, on a un réseau d'amis, on a des collègues de travail, on a des coéquipiers de sport, tout ce que vous voulez. Nous sommes appelés à être peut-être un ambassadeur auprès d'eux. On est peut-être le seul témoin de Christ dans cette sphère-là. La parole nous montre que c'est une sphère que nous sommes appelés à considérer, à réfléchir. Et bien sûr, une septième peut-être catégorie, alors je ne sais pas si on peut le découper comme ça, mais ça c'est très très contemporain à nos sociétés occidentales, c'est les loisirs. Il y a plein de pays, je pense que la majorité de nos pays ne réfléchissent pas à ce domaine-là, mais c'est vrai que nous, avec le temps, le travail qui est limité, etc., il y a une place pour les loisirs, oui, il y a un temps pour tout, nous dit Ecclésiaste. Il y a de l'espace dans nos vies pour des loisirs, faire du shopping, la lecture, du scrap, du sport, d'alimenter ton compte Instagram. Tout ça peut participer à ton équilibre. Mais ils ont besoin d'être à leur juste place. Nous voulons aimer, vivre pour plaire au Seigneur. Et on a une époque, je l'évoquais, qui capte notre attention. Et souvent, c'est renversé. Nos priorités sont pas Dieu. Attention à l'ordre de priorité. Glorifier dans ma Dieu, c'est bien identifier mes domaines de responsabilité. On n'est pas tous amenés à réfléchir dans tous les domaines suivant nos saisons de vie, mais est-ce qu'on prend le temps de considérer de façon intentionnelle de se dire, Seigneur, comment tu m'appelles à vivre sur mon lieu de travail? Comment tu m'appelles à vivre avec mon conjoint qui n'appartient peut-être pas au Seigneur? Etc. Donnons, Seigneur, priorité. Et on a besoin du Seigneur pour cela. Moi, ça fait déjà plusieurs semestres où j'ai un carnet de route comme ça qui m'appelle à poser chaque trimestre mes priorités devant le Seigneur, mes règles de vie, mes objectifs, se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles à, et malgré cela, je reste encore parfois débordé, mes routines. Et je me dis, Seigneur, comment tu m'appelles à hiérarchiser les choses? C'est quoi qui est important dans ma semaine? C'est quoi que tu m'appelles à vivre dans mon ministère? Et tout comme Paul encourage l'église de Thessalonique à grandir, nous sommes encouragés à réfléchir à ces domaines-là. À voir où nous mettons notre attention, à voir là où on met notre énergie, là où on met notre temps. Et Dieu le souhaite. Et je pourrais, j'ai pas le temps ce matin, mais je pourrais reprendre chacun de ces sphères et nous poser des questions, de se dire, mais dans ma vie, comment, quels sont les domaines où Dieu m'appelle à faire le ménage? Si je prends le domaine, par exemple, de notre église locale, comment nous sommes appelés à... Comment je vais aimer, apprendre à connaître mon frère, ma sœur qui est à côté de moi? Dans quelle activité le Seigneur m'appelle à m'engager, à porter des fruits? Vis-à-vis de ton argent, c'est peut-être personnel, tu te dis, bon, mon argent c'est moi, mais l'argent appartient à Dieu. Comment j'en suis qu'un intendant? Comment je gère cette question-là des finances? Que disent la manière dont je dépense mes finances de mon cœur, et de mes priorités, etc. Donc du coup, se pose la question maintenant qu'on sait qu'il faut vivre pour Dieu de façon intentionnelle, que nous avons à réfléchir aux différents domaines où le Seigneur nous appelle à les vivre. La question, c'est de se dire, mais comment on réfléchit à tout cela? Comment on réfléchit? Et je trouve que, bien évidemment, la question, je l'ai déjà évoquée, c'est pas sur nos propres forces qui doivent conduire notre vie de disciple, nos intentions. Mais je ne sais pas si ça vous a échappé, mais on le voit assez bien dans ces quelques versets de cette lettre, où Paul, il imbrique cette liste de choses avec deux orientations, et c'est la question de l'enseignement. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu de ma part, et vous l'avez entendu de Dieu. Il y a ces deux dimensions. Prenez le texte simplement sur les yeux, et vous allez le voir. Verset 1, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire. Verset 2, vous savez quelles instructions nous vous avons données. Fin du verset 6, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 8, il parle des instructions. Verset 10, il dit, nous vous encourageons. Verset 11, comme nous vous l'avons recommandé. On voit que Paul est en train de dire, je vous encourage à marcher de progrès en progrès, mais je vous ai déjà dit ces choses. Paul évoque les enseignements que cette église a déjà reçus, les fondements de la vie chrétienne. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent ce qu'ils doivent vivre pour plaire à Dieu. Paul, Silas et Timothée, qui s'adresse à cette église, a déjà évoqué comment ils devaient vivre en tant que chrétiens. Et je crois que je ne trahis pas le texte, le sens du texte, en disant que il y a de la place pour nous enseigner, pour nous encourager, pour nous écouter, à écouter l'instruction de Dieu dans tous ces domaines de nos vies, la place de la parole de Dieu. Et dans l'ensemble de ces lettres, Paul va d'ailleurs rappeler que nos dons que le Seigneur nous donne sont là pourquoi ? Pour l'édification des uns et des autres. On a besoin de s'exhorter les uns et les autres. On a besoin de nous encourager ensemble, de creuser ensemble, de questionner ensemble des sujets éthiques. On a besoin d'entendre les exhortations de la parole de Dieu. On a besoin de prendre du temps pour questionner nos sujets autour de la famille, autour de nos enfants, autour du travail, etc. Nous sommes enseignés. soyons enseignables. Mais comme je l'évoquais, je trouve ce qui est fin dans Paul, Paul il est en train de dire « comme je vous ai enseigné », mais il va le lier avec l'œuvre de Christ. En fait, les fruits de son enseignement, c'est l'œuvre de Christ, c'est ses fruits. Et si je reprends le texte, verset 1, « Encourageons-nous dans le Seigneur Jésus-Christ ». Verset 2, « Les instructions sont données de quoi ? De la part du Seigneur ». Verset 5, Paul va évoquer le contraste, il va dire « Ceux qui ne connaissent pas Dieu », donc ça veut dire que vous le connaissez, vous êtes disciples du Seigneur. Verset 7, « Dieu ne vous a pas appelé ». Tiens, ça veut dire que nous avons été appelés. Verset 8, « Celui qui rejette les instructions des apôtres, ceux qui rejettent les paroles de Paul, rejette Dieu ». D'ailleurs, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Verset 9, vous avez vous-même appris de Dieu. Vous voyez ce que Dieu nous donne. Cela semble évident, mais ceux qui sont à Christ, nous sommes appelés à grandir dans le Seigneur et il nous a donné. C'est le paquet, on a eu tout le paquet au départ. Il ne nous manque pas des options pour notre vie avec le Seigneur. On a tout reçu en Christ. Et c'est lui qui va susciter cette croissance dans le Seigneur. La capacité d'exceller, on pourrait dire, dans notre vie spirituelle dépend de l'œuvre de Christ dans notre vie, de la présence du Saint-Esprit. Nous sommes encouragés à grandir, à avancer dans l'excellence parce que nous sommes en Jésus-Christ. La transformation de mon corps, de mon cœur, de la vie de tous les jours n'est pas le fruit de mes efforts, mais de ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ, de mon unité à lui. Et c'est ce que Jésus a dit dans Jean 15. « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Là, il y a toute la dimension de la grâce qui agit. Et la grâce, comme on le voit ici, comme on l'a vu dans la lettre de Pierre, ne s'oppose pas à mes efforts, à ma prise en main de mes domaines de vie. Elles vont de pair. Gardons cela en tête, sans l'œuvre de Christ dans ma vie, je ne peux rien faire. Mon progrès dans ma vie avec le Seigneur n'est que une preuve que la grâce, elle agit en moi et que je ne mérite rien. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la grâce du Seigneur nous utilise les uns les autres. Il nous a donné l'Église quelque part. Vous avez déjà entendu, parle dans le Seigneur. Nous avons besoin d'entre nous. Pour vivre pour Dieu, pour l'aimer de plus en plus, nous avons besoin de le connaître de mieux en mieux et que de mieux de nous exhorter les uns et les autres. Nous avons besoin, bien évidemment, aussi des temps où on s'isole avec le Seigneur, où tu vas approfondir ta relation avec Dieu. Et là, c'est tout ce qu'on avait évoqué, la place de la parole avec David, notamment avec la place de la prière, la place de la dépendance à lui. On a besoin, mes amis, si on veut grandir, d'être intentionnel dans ces domaines, pour connaître Dieu de mieux en mieux. Il n'y a pas de secret. On partageait une préoccupation sur le trajet en Roumanie avec les jeunes et les moins jeunes qui étaient dans le bus et qui étaient autour de nous à plusieurs. On se dit aujourd'hui en tant que chrétien, on a souvent réponse à tout, on sait beaucoup de sujets, on se dit sur ce sujet-là, voilà comment je pense que Dieu voit les choses, sur la manière dont on doit vivre la louange, voilà comment je pense que le culte doit être, la manière dont on doit vivre notre vie spirituelle, la manière dont on doit voir par exemple les domaines éthiques, comme l'avortement, comme on se pose en ce moment la question dans notre société, la fin de vie. On a tous un avis là-dessus, mais on a constaté avec ceux qui étaient autour de moi que souvent on n'a même pas pris le temps de se dire mais qu'est-ce que Dieu en dit dans la parole ? Qu'est-ce qu'on en dit les ceux qui nous ont précédés dans l'histoire de l'Église ? On a tous des avis. Et souvent en écoutant les jeunes, on a cette position-là, mais on s'est dit mais est-ce que le Seigneur véritablement attend à ce qu'on vive ce sujet-là, cette manière-là ? Prenons le temps. Et Paul nous exhorte à se dire arrêtons-nous et de se dire mais voilà sur ce sujet-là. Je veux me laisser interpeller par Dieu. Comment Dieu il souhaite voir mon travail? Comment Dieu souhaite voir l'éthique de la sexualité? Comment Dieu souhaite voir la question des finances? Comment Dieu souhaite voir la place de l'Église? On se dit, dans plein de personnes que j'accompagne ou que j'ai l'occasion de croiser dans mon ministère, je réalise combien leur foi est si peu affermie. On est, et c'est le danger que traverse en tout cas actuellement nos églises, c'est qu'en fait, on est si peu enraciné dans ce que Dieu a dit. On pense savoir que la vie avec le Seigneur, c'est ça, mais on n'a jamais pris le temps de questionner, de cheminer ensemble, de grandir ensemble, de s'encourager ensemble. Et je suis reconnaissant que on aura dans le travail sur notre vision d'église l'occasion de questionner ensemble, de se dire mais qu'est-ce que c'est le culte, qu'est-ce que c'est la place de l'enseignement chez les enfants, de la communion fraternelle, comment nous sommes appelés à vivre ensemble, à incarner ensemble la mission au loin comme au près, etc. On voit que au travers de ce, j'arrive au bout de ce que je voulais nous partager, nous encourager dans cette dimension de vivre intentionnellement. Notre vie avec le Seigneur, il y a un processus. On est là pour nous encourager. On a besoin des aînés, on a besoin des plus jeunes. On n'aboutit pas du jour au lendemain à avoir une compréhension claire et nette de ce que le Seigneur m'appelle à vivre. Et on a encore bien des égarements, bien des réflexions à mener. Mais nous sommes appelés à rentrer dans ce chemin d'obéissance où nous souhaitons être disposés à ce que nous soyons de plus en plus semblables au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Paul encourage ici, il dit, c'est ce que vous faites déjà. Et c'est ce que je pourrais vous dire, vous marchez déjà avec le Seigneur. Il y a plein de domaines où vous excellez. Mais Paul nous dit, mais progressons encore. Travaillons encore. Travaillons ensemble ces sujets. Que le Seigneur vienne à notre aide. C'est toute la sanctification, toute la vie avec le Seigneur. Portons encore plus de fruits. Aimons-nous davantage encore. On a bien des progrès à faire. Progressons. Parce que Paul va évoquer dans 2 Corinthiens que ses progrès dans cette vie avec le Seigneur va refléter la gloire de Dieu. L'enjeu, c'est ça, c'est la personne de Dieu, c'est l'honneur à Dieu. On va être transformé en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Un disciple est discipliné. Nous sommes appelés à marcher de progrès à progrès et de réfléchir à tous ces domaines de nos vies où nous sommes appelés à marcher en tant que disciple. Je voudrais simplement terminer par une citation d'un théologien qui a vécu en 1700, de Jonathan Edwards, un peu l'élite de l'histoire américaine, qui est animé d'une énergie et d'une motivation extraordinaire pour son Seigneur. Il était pasteur aussi, mais c'était pas à cause de sa consécration, mais il avait une soif de Dieu. C'est ce que j'aimerais nous laisser. Ayons soif de Dieu. Ayons soif de progresser ensemble dans la personne de Dieu. Je lis cette citation. Je vais vous laisser. Mon esprit était grandement captivé par les choses divines, presque continuellement en train de les contempler. Je passais la plupart de mon temps à penser aux choses divines, aux choses de Dieu, année après année, marchant souvent seul dans les bois et dans des endroits retirés pour fin de méditation, de monologue, de prière et de conversation avec Dieu. Et j'avais toujours pour habitude, en pareil moment, de chanter mes contemplations. J'étais presque toujours poussé à prier où que je sois. La prière semblait être naturelle pour moi comme le souffle par lequel les ardeurs de mon cœur s'exprimaient. Les joies que j'éprouvais maintenant dans ces choses religieuses étaient un tout petit autre ordre que celles que j'avais déjà mentionnées, que j'ai connues étant enfant, et dont je n'avais encore aucune notion, comme un aveugle naissance n'en a de belles et agréables couleurs. Elles étaient d'une nature plus intérieure, plus pure, plus vivifiante et plus rafraîchissante. Les joies antérieures n'atteignaient jamais le cœur. Elles n'étaient pas suscitées par la vue de l'excellence divine des choses de Dieu, pas plus que par le goût du bien en elles qui satisfait l'âme et qui donne la vie. On pourrait méditer longtemps sur ce qu'il nous évoque là, mais mon esprit était captivé par Dieu. Et il mettait du temps. Mes amis, je voudrais nous encourager à avoir du temps. Se dire, est-ce qu'on a du temps pour lire la Bible? Est-ce qu'on a du temps pour prier? Ou est-ce que c'est autre chose qui préoccupe nos cœurs? Alors que Dieu nous utilise pour vivre pour le plaisir de Dieu, de plus en plus.